France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, en ce début de vacances de printemps, quelques films à regarder en famille et pourquoi pas pour en débattre façon masquer la plume. Au programme, Clint Eastwood, Tim Burton, Claire Simon, Claude Barras, Miyazaki ou encore Noémie Lvovsky. Et puis en cette période où la tentation autoritaire illibérale secoue de plus en plus de démocratie, nous verrons comment le cinéma peut nous aider à résister aux ingénieurs du chaos démocratique, aux prédateurs de liberté, aux destructeurs de fraternité. Comment le cinéma peut nous aider à aiguiser notre sens critique et être un antidote à la barbarie? Éléments de réponse avec nos invités. Et vous, dites-nous quels sont les films récents ou anciens que vous aimez partager avec vos enfants, petits-enfants, neveux ou nièces. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse.
Arnaud.
Ali Rebéi.
J'ai l'impression que dans le monde moderne, le monde nous apparaît souvent terne ou ennuyeux, etc. Puis je regardais, quand je réalisais Spectateur, je pensais comme ça aux poètes du XVIe siècle ou du XVe siècle. Mais ils ne s'ennuyaient jamais. Et l'ennui, c'est une invention moderne. C'est-à-dire, tout d'un coup, le monde nous semble terne ou sans signification. Et on a besoin de cette machine, le cinéma, pour quand vous projetez le monde sur un écran, vous souvenez à quel point la vie est absolument passionnante et fascinante. Jeunesse de Wang Bing. Voilà, c'est un film très long, austère, comme ça, vous voyez la jeunesse chinoise, et vous vous souvenez à quel point c'est incroyable d'être jeune, d'être amoureux, d'être travailleur, de se disputer, de machin, et le monde vous semble scintillant. L'histoire de Souleymane, vous voyez une histoire, vous croyez tout connaître par l'actualité, les problèmes des migrants, des travailleurs précaires, etc. Et tout d'un coup, vous êtes Souleymane, et vous vivez une possibilité de vous que la vie ne vous offre pas, que la vie moderne ne vous offre pas. Ben, le cinéma, ça vous offre tout ça.
Une interview du réalisateur Arnaud Desplechin le 4 avril dernier sur France Inter. Bonjour Carole Desbarras.
Bonjour.
Vous êtes enseignante critique à la revue Esprit, ancienne directrice des études à la FEMIS et actuellement directrice des rencontres nationales du Havre sur les séries. Bonjour Guimet Odissino.
Bonjour Ali.
Journaliste et chef de rubrique cinéma à Télérama, chroniqueuse dans cette émission le vendredi. Bonjour Stéphanie Dalfeur.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'archipel des Lucioles et directrice du Récit, le réseau Est Cinéma Images et Transmission. Et vous êtes en duplex d'ici Alsace. Bonjour Frédéric Sigrist.
Bonjour Ali.
Comédien et producteur de l'émission Blockbuster l'été et surtout en ce moment sur l'appli Radio France. Que vous inspire, tiens, ces propos d'Arnaud Desplechin, Carole Desbarras, ça tombe sur vous.
Eh bien écoutez, on le sait, hein, Arnaud Desplechin, c'est peut-être le plus grand théoricien du cinéma que nous ayons actuellement, en plus d'être un très grand cinéaste, ou à l'inverse. Mais oui, bien sûr, ça nous ouvre sur le monde, le cinéma. Et les films qu'il a cités, comment dire que ça ne nous a pas étonnés. On croit savoir des choses sur les livreurs Uber, et puis quand on voit l'histoire de Souleymane, on voit autre chose, on vit autre chose, on est en empathie. Et puis après, on juge le film esthétiquement, c'est une autre question.
Guimet Odissino.
Oui, bah, je suis d'accord. Enfin, Bertrand Tavernier, autre grand cinéphile et analyste du cinéma devant l'éternel, qui est parti il n'y a pas si longtemps, disait tout bêtement que le cinéma, c'est une fenêtre sur le monde. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, un écran, c'est une fenêtre que vous ouvrez, peut-être sur votre monde, mais que vous apercevez que vous le méconnaissez, et
non,
surtout sur les autres mondes. Sur les autres pays, sur les autres catégories socio-professionnelles, c'est un apprentissage absolu de l'autre, tout bêtement, oui.
Frédéric Sigrist.
Alors, non mais c'est parce que c'est, j'aime
et
beaucoup.
C'est aussi un divertissement.
Oui,
Frédéric,
voilà. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on parte directement vers la théorie et l'analyse des films, mais à la base c'est surtout quelque chose de très organique, de quelque chose qui vous saisit et sur lequel vous allez peut-être mettre des mots. Plus tard, il y a des films que j'ai vus très jeunes qui m'ont fait un choc, mais j'étais absolument pas capable intellectuellement de dire en quoi ça m'avait marqué. Simplement, je sais que les images que j'ai vues se sont imprimées dans mon cerveau pour longtemps. Donc c'est avant tout viscéral pour moi le cinéma. Et après, ça peut devenir quelque chose d'analytique ou d'analysé.
Carole Desbarras, vous êtes notre sage doyenne ce matin, et j'aimerais commencer avec vous, avec cette question un peu difficile. Pensez-vous que le cinéma puisse être un instrument de résistance en ces temps troublés où nos démocraties sont secouées par un puissant désir d'illibéralisme façon de la Trump ou Viktor Orban? De quelle façon le cinéma peut nous aider, peut aider nos enfants, nos adolescents à résister face à toutes ces tentations autoritaires?
Là, je voudrais vous me donner bien sûr une minute trente. Écoutez, moi je le crois, parce que sinon j'aurais pas milité pendant des dizaines d'années dans école et cinéma pour montrer des films aux enfants. Mais je pense que c'est valable pour les adultes aussi, si vous permettez, Ali. Les films nous aident, nous aussi, à résister. En fait, il y a deux catégories de films qui peuvent répondre à la question que vous posez. Il y a les films militants, qui convainquent déjà ceux qui sont déjà en partie convaincus ou susceptibles de l'être, et c'est pas de cela qu'on va parler ici. Et puis, il y a les films qui ouvrent des possibles. Et c'est ce que j'ai cru d'ailleurs entendre dans l'intervention de Desplechin, je le rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire cette idée que ça ne m'est pas interdit. On doit pouvoir faire autrement. Que ce soit en regardant vers le passé, avec des films du passé qui nous permettent de comprendre des choses d'aujourd'hui, ou que ce soit des films d'aujourd'hui qui nous ouvrent sur « mais non, je pensais que l'école c'était ça, mais non, ça peut être tout à fait autre chose ». Et ces films-là, en nous ouvrant ces hypothèses, ouvrent notre imaginaire et ouvrent notre action. Et pour répondre à Frédéric Sigrist, c'est vrai que l'émotion, elle est intrinsèquement lié à la réflexion. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment avec des neurocognitivistes, parce que j'étais comme vous, Frédéric. D'abord l'émotion, et ensuite la réflexion. On dit pas du tout. C'est complètement lié. Pendant que vous vous émouvez de je ne sais pas conjuguer le verbe.
Moi non plus.
Je ne sais pas le faire.
Pendant que l'émotion vous prend.
Merci. Comme ça, mes profs de linguistique ne se retournent pas dans leur tombe. Eh bien, effectivement, vous réfléchissez en même temps. Donc, plus un film va vous toucher, plus il y a des chances que, par exemple, mais c'est pas forcé, il vous serve de modèle. Il vous ouvre la possibilité de vous dire « moi aussi ». Ça a été très vrai sur les films de femmes. On s'est rendu compte que montrer des femmes différemment comme personnages, ça permettait à des jeunes filles, à des jeunes femmes, de se dire « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas ?
Guillemette Odissino.
Oui, et puis, on parlait donc de cette fenêtre sur le monde, qui n'est pas simplement une fenêtre d'intellectualisation, mais d'émotion. En fait, aussi, les films qui nous aident à résister, c'est les films qui provoquent en nous de la révolte. C'est-à-dire, beaucoup de films, certains films sont une explication magnifique de ce que pourrait être une magnifique démocratie, de ce que pourrait être un happy end politique, et d'autres, par leur dureté même, parce qu'ils racontent de révoltants qui nous scandalisent, nous donnent envie, enfin il y a vraiment des films qui donnent envie de lever le poing, qui donnent envie de se lever en disant ce n'est pas possible, il faut que ça n'advienne pas. Donc moi je trouve que ces films-là, qui vous prennent aux tripes et qui vous expliquent un monde dans lequel vous ne voulez pas vivre, sont essentiels.
Un bel exemple de résistance en ce moment, c'est le cinéma iranien. C'est Mohamed Rasoulov, prix spécial du jury à Cannes en 2024, qui nous dit, je le cite, « J'ai fait de mes films des outils de résistance, les graines du figuier qui racontent un pays au bord de l'implosion à travers une famille iranienne. »
Ah oui, en plus c'est vraiment un film passionnant parce qu'il met face à face un père, donc une autorité qui en plus s'avère être le représentant de l'autorité politique, et vraiment très autoritaire de l'Iran, et ses deux filles, qui, elles, entendent le bruit de la rue, voient sur les réseaux sociaux ce qu'il se passe dans la rue, et donc tout d'un coup, au sein d'un petit microcosme, c'est comme si tout l'enjeu d'un pays se jouait. Et en plus, ça prend la forme quasiment d'un film noir, ou même à la fin d'un western. C'est incroyable, c'est un western démocratique en Iran, c'est un film fou. Il faut, ça me fait plaisir que vous parliez de ce genre de cinéaste, parce qu'il faut vraiment dire que le cinéma iranien, le cinéma japonais, le cinéma coréen, enfin n'importe quoi, c'est pas du tout des films dont il faut avoir peur, ça va être compliqué à comprendre. Non, il y a des fois, il y a des lignes narratives qui vous prennent, mais vraiment, mais au cœur, au ventre, c'est vraiment des films très faciles d'accès et qui donnent envie de résister.
Les graines du figuier de Mohamed Rasoulov à voir en famille, Frédéric Sigrist.
Sur les films de résistance, il y a une franchise dernièrement qui est revenue à mon esprit très très fort. C'est tout simplement Star Wars. c'est l'éléphant dans la pièce, mais il faut savoir que la menace fantôme, l'épisode 1, voulu par George Lucas, s'ouvre sur le fait que la République augmente les droits de douane et de taxation, ce qui amène le chancelier à devenir cet empereur qui va faire régner le fascisme sur l'univers. Et je me rappelle, quand j'ai vu ce film il y a des années de ça, tous les fans de Star Wars avaient tendance à dire « Mais qu'est-ce que Lucas vient nous embêter avec des histoires de taxation, de douane, de fédération du commerce ?» Et voir à quel point, en fait, pour lui, il était clair que l'économie était la première marche avant d'aller vers un vrai fascisme avec les Stormtroopers, Dark Vador, etc. Et je trouve que a posteriori, revoir ces films, on se dit, ils sont bien plus matures que ce qu'on imaginait.
Vous me donnez envie de revoir la menace fantôme. Stéphanie Dalfeur.
Oui, dans le cadre des dispositifs d'éducation aux images qu'on coordonne, donc ce sont des temps de rencontre entre des jeunes élèves et leurs enseignants devant des films sur des catalogues qui sont déjà constitués. Et beaucoup de films de ces catalogues sont des films de résistance. Et je trouve que c'est important aussi de montrer aux plus jeunes que ça existe, qu'ils peuvent s'identifier à ces personnages. Je pense par exemple à Billy Elliot qui va absolument danser au lieu de faire de la boxe, ou entre ses mains de Mariano Otero sur une usine reprise par les employés eux-mêmes. Donc dès les plus jeunes générations, de montrer ces films comme des guillemets où on peut se révolter, avoir envie d'être en empathie avec ces personnages et de donner la possibilité à ces jeunes enfants de tout de suite se dire qu'on peut résister très jeune et que le cinéma est un moyen de se projeter. Donc c'est vraiment important. Et puis ça permet aussi de lutter contre ces films de propagande, puisque le cinéma a quand même été aussi utilisé pour faire beaucoup de propagande, et de démontrer qu'il existe d'autres façons de faire des films et qui insufflent un vent révolutionnaire. C'est très important.
Guillemette.
Et puis il y a des films, je vais citer 12 hommes en colère. Montrer 12 hommes en colère à des enfants, ou même le revoir nous-mêmes, c'est une manière de dire, vous pouvez être cet homme-là, ce juré-là. Vous pouvez être cet homme qui à un moment dit « Attendez, vous êtes tous d'accord ? Mais moi je voudrais juste vous demander, vous poser la question. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez condamner ce garçon à mort et tout ?» Être cette personne qui dit « Attention, réfléchissons avant d'agir. » Ça, c'est un exemple absolu de cinéma qui donne en tout cas la possibilité d'être cette personne qui change le monde.
On ajoute donc à notre liste 12 hommes en colère de
Ciné-Lumette,
évidemment. Je voulais vous piéger, Guillemette. Carole Desbarin.
Oui, mais il n'y a pas que les films qui nous demandent de nous révolter, qui nous ouvrent à la résistance. Moi, je pense que voir, par exemple, un homme comme Clint Eastwood dans La route de Madison, être attentif, sensible à la femme qu'il aime, ça ouvre un modèle. Ah oui. C'est pas du tout de la révolte, mais je pense qu'il y a des jeunes gens qui peuvent se poser des questions sur, après tout, est-ce que c'est pas intéressant de traiter autrement les femmes ?
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur des rédactions du 1 Hebdo, quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent vers 11h20 ?
Eh bien on va parler cinéma justement, on va parler d'enfants, et on va se demander jusqu'où on peut traumatiser nos enfants au cinéma.
Grand bien vous fasse.
Donc vous conseillez aux gens d'aller le voir quand même.
C'est-à-dire, c'est où ? C'est aux Trois Quartiers, Saint-Germain ?
Trois Quartiers, Saint-Germain.
Oh là là, rien que pour la directrice de la salle, Madame Vicentin, qui est une personne délicieuse. Quel bonheur, quel accueil. En plus, elle a tout redécoré, style art déco. Rien que pour la salle, il faut y aller.
Mais rien que pour la salle.
Sur France Inter.
Et ce matin, une sélection de films à regarder en famille à l'occasion des vacances de printemps avec l'honorable Carole Desbarras, avec Stéphanie Dalfeur, Frédéric Sigrist et Guillemette Audicino.
Monsieur le Président.
Le sénateur Smith désire être entendu sur l'article 25.
Oui, monsieur.
Étant bien entendu que vous ne dépasserez pas 5 minutes.
Oui, monsieur.
Vous avez la parole, sénateur.
Monsieur le Président, la construction d'un barrage sur la rivière Bergeronnette n'est rien d'autre...
Monsieur le Président, est-ce que le sénateur Smith veut céder la parole au sénateur Payne ?
Oui, s'il le désire.
Vous avez la parole, sénateur Payne.
Monsieur le Président, j'ai le pénible et difficile devoir de vous dire que placé devant une preuve irréfutable... Je considère le sénateur Smith comme indigne de siéger ici maintenant.
Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra en 1939, qu'il est loin le temps des idéaux démocratiques. Dans ce film de Capra à l'ère de la destruction démocratique, à l'ère Trump, Carole Desbarras, parmi les réalisateurs essentiels qui nous permettent de mieux comprendre le principe démocratique, sans tomber dans le manichéisme, il y a donc Frank Capra, qui fut également très actif pendant la Seconde Guerre mondiale dans la propagande anti-nazie. Pourquoi est-il essentiel de voir, revoir Monsieur Smith au Sénat avec James Stewart, Carole Desbarras?
Ben écoutez, parce que c'est formidable de voir un homme se lever, se tenir debout. Très récemment, il y a une semaine, on a vu un homme aux États-Unis qui a fait la même chose que le personnage de M. Smith, M. Cory Booker, qui est resté 24 heures debout, selon la possibilité que donne le Sénat américain, de prendre la parole et de la garder tant qu'on ne quitte pas le micro. C'est vrai que dans le film de Capra, c'est traité comme un thriller à ce moment-là. On a une espèce d'empathie énorme pour lui. Mais bon, Capra, qui n'a pas toujours été aussi simple que ça politiquement, mais c'est un autre sujet, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Justement, là, nous permet de comprendre comment fonctionne la démocratie. Vous parlez de démocratie. Et il y a des gens qui ont suivi cet exemple. Je pense par exemple à, pardon de parler de série ce matin, mais The West Wing à la Maison Blanche. Il y a dans la saison 2, dans l'épisode 7, un moment où CJ, la merveilleuse attachée de, responsable porte-parole du président, dit à tout le monde, venez, on va voir comment marche la démocratie. Et ils vont tous se mettre devant des écrans de télé parce qu'il y a un vieux monsieur qui fait ce qu'on appelle un filibuster, c'est-à-dire cette procédure d'obstruction qui, parce qu'il veut sauver son petit enfant autiste qu'une loi risque d'embarrasser, prend la parole pendant très longtemps. Et donc la référence à Capra, elle est directe. Donc quand je disais tout à l'heure qu'il y a des films qui nous permettent de mieux voir le passé et de mieux voir le présent, ce film-là, il est parfait parce qu'à la fois, on comprend ce qu'étaient les États-Unis dans les années 40, ça nous renvoie à aujourd'hui, ne serait-ce que la semaine dernière, mais aussi, on est dans l'intemporalité et le désir que nous avons d'être droit dans nos bottes.
Guillemette Odissino.
C'est un grand film sur la citoyenneté. C'est effectivement, c'est comment un homme seul, à un moment, par la force de sa parole, mais par la force de sa conviction profonde, humaniste, va en fait retourner une assemblée. Donc, enfin, ça, c'est vrai que c'est le film politique dans tout son idéal, disons. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut encore exister. Enfin, tant qu'il y a encore des assemblées, des parlements, etc., il y aura toujours des mecs pour se lever, tenir la parole et tenir le micro pendant 3 heures d'affilée s'il le faut,
pour 24 heures.
Ou 24 heures pour défendre une cause. Et finir par faire en sorte que d'autres hommes ou femmes se lèvent à ses côtés. Donc oui, c'est magnifique ce Capra-là.
Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier ? Ce super flic se fait des amis, résout des crimes et joue même du piano pour les personnes âgées.
Il y en a marre de Dogman, il est temps d'arrêter ce super flic! Il ne va pas mettre en péril mon plan diabolique pour détruire tous les bons samaritains.
Comment un chat peut-il être aussi méchant?
Tu vas vite le savoir! Dogman, écoute-moi! Tu es le seul à pouvoir l'arrêter, grâce à ta maîtrise du kung-fu et ton courage canin. Et le reste, y a pas de temps à perdre.
Sans transition, après Monsieur Smith au Sénat, Dogman de Peter Hastings, et c'est votre choix, Frédéric Sigrist.
Mais oui, deux salles, deux ambiances.
Un film qui sort demain en salle. À la suite d'un accident, le corps d'un policier et la tête de son chien sont fusionnés lors d'une opération chirurgicale. Super chien est né. Frédéric Sigrist, j'imagine votre tête greffée sur le corps d'un Yorkshire.
Alors en l'occurrence, c'est le contraire. C'est la tête d'un Yorkshire qui serait greffée sur mon corps.
Voilà.
Et en fait, alors il faut savoir que Dogman, c'est un livre pour enfants. Qui a déjà cartonné. Et en fait, c'est une série dérivée d'un autre grand personnage illustre que les auditeurs de France Inter doivent évidemment connaître sur le bout des doigts, qui s'appelle Capitaine Super Slip. C'est le temps de découvrir. Et en fait, c'est un dessin animé pour enfants drôlissime. Quand je dis pour enfants, en fait, pour tout le monde. Parce que Dogman, c'est une avalanche de blagues, mais très très drôles, avec une animation léchée. Il y a vraiment cette idée du slapstick. Vous aimez Steve Martin, il y a du Steve Martin dans Dogman. Et je trouve que en ce moment, par rapport au contexte, par rapport à l'actualité, par rapport au discours que les adultes peuvent avoir vis-à-vis des enfants, tout ça, si vous voulez un film familial, non pas pour les enfants, mais familial, parce que si j'ai choisi que des films d'animation, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, seule l'animation propose des films universels. Dogman en fait partie. C'est un film qui est sur les écrans et qui va faire rire tout le monde, les parents comme les enfants. Et je ne peux que vous conseiller à aller.
Dogman en salle demain, c'est ça ?
Demain.
Et je crois que ça donnait envie à notre réalisatrice Claire Destacan. Alors, Stéphanie Dalfeur, j'adore le titre du film que vous avez sélectionné. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, du Thaïlandais Pat Buntipat, qui sortira en salle le 16 avril. Un petit-fils est prêt à tout pour toucher le pactole de sa grand-mère malade. C'est le pitch.
C'est l'argument. Excusez-moi. C'est le pitch. On pourrait penser que c'est une comédie avec un pitch pareil, mais c'est pas une comédie et c'est un film familial. Donc il n'y a pas que des films de dessins animés pour les prochaines vacances. J'ai choisi ce film puisque c'est l'histoire, donc ça se passe en Thaïlande et c'est une grand-mère qui tombe malade, qui a trois enfants, deux fils et une fille, et chacun a une histoire particulière avec elle. Et l'aîné est celui qui va être le préféré, le second qui est un peu marginal, elle a toute l'attention de sa mère, et puis la femme n'arrive pas à trouver sa place par rapport à sa maman. Et il y a ce petit-fils qui s'appelle M, qui écoute de la musique, est pas très présent, comprend pas trop la situation familiale, et quand la grand-mère apprend qu'elle va certainement décéder d'un cancer, il a envie de se placer auprès d'elle pour obtenir l'héritage. Alors c'est vrai qu'au début du film, on a un peu de mal à comprendre en se disant « mais c'est culturel, qu'est-ce qui se passe ?» C'est très cynique, on comprend pas. Et au fur et à mesure, il y a une relation très tendre qui va se mettre en place entre elle et lui, avec des souvenirs, avec une attention particulière. Le personnage principal qui joue la grand-mère est extrêmement touchante. Elle a jamais joué au cinéma, donc elle est vraiment... c'était des acteurs non professionnels. Elle est une actrice non professionnelle. Et on voit toute la difficulté de dialogue qu'on peut avoir dans les familles, l'envie de toucher, de faire un câlin, de dire des choses, mais tout est en retenue. Et le film va dérouler comme ça pendant 2 heures, cette relation qui va se faire. Et on rentre dans une comédie, très douce, avec beaucoup d'émotions. C'est un film qui a cartonné au Vietnam, en Thaïlande, pardon, et qui est en lice pour les Oscars. Je le conseille vraiment, et c'est vraiment générationnel, puisque on peut le voir avec ses enfants à partir de 10 ans. Et puis, ça nous permet de découvrir la Thaïlande, la façon de vivre, les relations familiales, et tout le lien très fort entre comment est-ce qu'on accompagne sa grand-mère ou son grand-père vers les derniers jours de sa vie. Donc, ça sort le 16 avril.
Comment devenir riche grâce à sa grand-mère du Thaïlandais Pat Buntipat. Alors, vous avez choisi Guillemette Odissino. Vous avez choisi, je regarde votre liste, il y a des choses intéressantes. Tiens, il y a Miss Pérégrine.
Merci Ali, c'est gentil.
Miss Pérégrine, non mais je regarde votre liste. Miss Pérégrine et les enfants particuliers de Tim Burton, sorti en 2016. Un conte de fées cruelles qui nous restitue intact le Tim Burton qui enthousiasma, nous disait Christian Viviani, dans Positif. J'imagine que vous êtes d'accord avec lui.
Absolument. C'est bien pour ça que ça fait partie de ma liste, très cher. Bon, déjà, Tim Burton.
Vous me cherchez,
À part 2-3 films peut-être un peu moins réussis, toute la filmographie de Tim Burton est savoureuse et quasiment aussi toute regardable en famille. Mm-hmm. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc il n'y a pas que les films d'animation, en effet.
Non, mais je parle maintenant. En ce moment, je ne parle pas dans le passé.
Oui, Miss Peregrine, ce qui est vraiment beau, c'est que c'est un livre gothique, disons un conte gothique à succès, mais on a l'impression que le bouquin a été écrit pour que Tim Burton l'adapte, parce qu'il y a tout là-dedans. Imaginez, c'est une espèce de monde parallèle où des enfants particuliers, mais alors quand on dit particulier, par exemple, une petite tête blonde, mais il y a les cheveux qui cachent qu'en fait, elle a une bouche mais une bouche dévorante. Voilà. Il y a des jumeaux qui sont emmaillotés bizarrement. Il y a une jeune fille qui est obligée de porter des chaussures, en fait, lestées, parce qu'autrement elle s'envole. Tous ces gens, tous ces enfants particuliers, qui en plus racontent évidemment que nous avons tous des particularités, des défauts, des zones d'ombre et tout, sont gardés dans un manoir par une espèce de gardienne du temple, Eva Green. Aïe, aïe, aïe. Non, mais là, ah oui. Ça va aussi apprendre le charme et la beauté à vos enfants, si par hasard. C'est absolument, c'est pas possible. Et toute cette petite bande d'enfants bizarres vont se battre contre des esprits maléfiques. Mais c'est d'une poésie. C'est d'une poésie. Ça raconte aussi les aspects noirs de l'enfance. Ça raconte les espoirs de l'enfance. Et ça raconte que l'enfance, même, disons, pour aller vite, handicapée, peut s'envoler et combattre le mal. C'est super beau. Et je pense que vraiment, ça peut réunir absolument tous les membres d'une famille devant l'écran.
Vous l'avez vu, Frédéric Sévis ?
Évidemment, évidemment. Bah, c'est les X-Men à la version Tim Burton.
C'est-à-dire, ça, ouais.
C'est l'école.
Super pouvoir.
Et avec Eva Green en Mary Poppins gothique qui forme ses élèves. C'est, oui, c'est, pour moi, c'est le dernier Tim Burton de qualité. Après, oui, on peut en parler.
Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Carole Desbarras, vous avez choisi un documentaire de Claire Simon. Ça s'appelle Apprendre, sorti l'an dernier. Un portrait assez optimiste de l'école républicaine.
Eh bien, voyez-vous, j'avais choisi ce film par rapport à la question que vous posiez sur les films qui nous aident à vivre, qui nous aident à résister. C'est en fait un documentaire où Claire Simon a planté sa caméra dans une école primaire de la région parisienne, à Ivry-sur-Seine. Il y a, je crois, plus de 20 langues qui sont parlées par les enfants. 80% des parents sont allophones. Et il y a surtout dans cette école une unité de tous les adultes pour faire que les enfants avancent. Et je trouve que ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, ça c'est possible. L'école, ça peut aussi être ça. Il y a un moment extraordinaire dans lequel il y a un directeur qui se penche sur un petit garçon qui lui dit, écoute, tu as tapé, c'est interdit, tu ne devrais pas le faire. Je peux te punir, mais je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Tous les deux, on va travailler et on va voir comment tu peux ne plus taper. C'est ça, la pédagogie. Et donc, ouvrir dans ce sens-là, le documentaire permet, un, de voir le présent, deux, de se dire, le futur, ça pourrait être ça.
Vous l'avez vu, Guillemette ?
Ah ouais, c'est un documentaire lumineux, et qui donne espoir, oui. Qui donne espoir dans la pédagogie, et qui surtout est aussi l'éloge de tous ces profs, de tous ces instituteurs, de tous ces gens qui font en sorte que nos enfants... soit encore de jolies graines qui poussent, quoi.
Oui, et puis, ce qui est très frappant, c'est qu'on se rend compte que si ça marche, c'est parce que tous les adultes ont la même langue. Tous, ils défendent la même façon de travailler et de vivre avec les enfants. Et du coup, ça marche.
Apprendre de Claire Simon. Tiens, Julien Bisson, un petit choix peut-être pour nos auditrices et auditeurs.
Ben moi, j'avais envie de vous parler de Little Miss Sunshine.
Little Miss Sunshine,
qui n'est pas un film très récent, mais qui est un film qui a une vingtaine d'années, mais qui est un film vraiment familial. Un grand film pour resserrer les liens familiaux. Si vous êtes dans une famille où vous avez l'impression que chacun est sur son téléphone dans sa petite bulle, et ben vous n'êtes sans doute pas seul. Et dans Little Miss Sunshine, on avait affaire à une famille totalement dysfonctionnelle entre le grand-père obsédé, le père qui se répète tout le temps qu'il faut avoir la culture des gagnants, le fils qui a décidé de se taire, de ne plus parler et qui veut absolument faire devenir pilote de chasse, la fille qui, elle, veut faire des concours de Miss, et puis le beau-frère qui est joué par Steve Carell, extraordinaire Steve Carell en beau-frère suicidaire qui est le plus grand spécialiste de Marcel Proust en Amérique, et toute cette famille qui ne sait plus se parler, eh bien, va se retrouver embarquée dans un road trip, dans un van qui n'arrive plus à démarrer. Il faut toujours qu'ils arrivent à pousser le van. Et il y a une scène qui se répète tout au long du film où ils poussent le van, où il faut qu'ils arrivent à monter en marche. Et c'est une fin de cette scène, elle est très métaphorique sur la façon dont on peut tous ensemble essayer d'avancer en famille, puisque à travers les drames qu'ils vont connaître, à travers beaucoup de péripéties, chacun de ces membres de la famille va réussir à retrouver la communication, à échapper aussi aux injonctions qui leur sont faites, et les injonctions de genre, injonctions sociales, injonctions de succès à tout prix. Et donc voilà, c'est un grand film, je trouve, qui a une vingtaine d'années et qui permet aujourd'hui de...
Sorti en 2006, il y a 2006. Presque 20 ans, Little Miss Sunshine, Frédéric Segrist.
Avec l'incroyable Toni Collette qui joue la mère et qui... pour moi, est vraiment mais la clé de voûte de cette famille. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est de voir que celui qui est défini comme dépressif et qui a donc été interné, qui est suivi pour ça, au final, toute la famille l'est. Sauf que il a l'étiquette au-dessus, mais en fait toute la famille, et je trouve que c'est un beau résumé de toutes les familles auraient besoin de thérapie.
Carole Desbarras.
Toutes les familles, sauf la petite fille.
Sauf la petite fille.
Et il y a dans ce film une séquence qui est décapante comme c'est pas possible, c'est la séquence d'un concours de jeunes miss, et quand la petite fille se met à danser, et qu'elle enlève ses vêtements un peu comme Superman, elle enlève ses vêtements, et qu'elle danse dans les codes exactement inverses du concours de Miss, j'ai rarement vu quelque chose qui décape autant la société américaine que ça.
Guillemette Odissino.
Oui, et puis je ne veux pas trop la décrire cette scène parce que c'est effectivement l'acmé du film, mais à la suite de ça, il y a une des plus belles scènes de solidarité familiale que j'ai vue, une scène qui va à l'encontre de la chose qui nous tue tous normalement, la honte. Comment une famille se bat contre la honte tous ensemble, je trouve ça génial. Ça, c'est un des plus beaux enseignements de ce film.
Et c'est très drôle, avec un humour parfois très noir,
oui, caustique,
mais vraiment très drôle.
Little Miss Sunshine, à voir en famille pendant ses vacances, un film de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Allez, il est quasiment 11h20, l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Julien Bisson.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut. Merde.
Alors, mon cher Julien Bisson, est-ce que vous regardez beaucoup de films en famille?
Oui, comme Little Miss Sunshine, par exemple. Oui, c'est mon cher Ali, c'est le sacro-saint rituel du vendredi soir. On allume le vidéoprojecteur, on descend l'écran géant et on regarde des films. Des films de tout genre, de toutes les époques, plongés dans le noir et la passion commune pour le cinéma. Tout est formidable. Enfin, presque toujours. Parce que parfois, il m'arrive de ne pas choisir les bons films. Et ça, parfois, on le sait assez vite. Quand votre gosse vous dit au bout de 10 minutes qu'il s'ennuie, que c'est nul, ou qu'il comprend rien parce que c'est en version originale sous-titrée et qu'il ne sait pas encore lire, là, vous savez.
Oui, à 2h30, c'est... Oui.
Parfois, on le sait trop tard. C'est une fois que le film est terminé, que la lumière s'est rallumée et que votre môme vous dit « Papa, le film, il m'a traumatisé. » Palme du traumatisme ces dernières années, Pirates des Caraïbes, dont je ne me souvenais que de Johnny Depp hyper maquillé et des combats style KPDP, oubliant totalement qu'au milieu du film surgissaient des morts vivants terrifiants. Résultat, gosse qui ne dort plus, cauchemar et culpabilité appuyée, façon, t'es vraiment un père indigne.
Bon, mais vous auriez peut-être pu vous en douter, Julien.
Oui, alors pour Pirates des Caraïbes, oui, j'aurais pu être plus prudent. Mais très souvent, il est difficile d'anticiper l'effet qu'un film aura sur votre enfant. J'avais peur qu'il soit triste devant Bambi, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors que la mort de Mufasa dans Le Roi Lion reste l'une des plus grosses crises de larmes de toute son enfance. Il n'a pas eu peur, mais alors pas eu peur du tout devant une scène qui me terrifiait dans mon enfance. Celle, vous savez, à la fin de Qui veut la peau de Roger Rabbit, avec son bain dans la trompette. Et en revanche, lui, il a été profondément effrayé par les scènes de transformation des visiteurs quand ils boivent la potion pour remonter dans le temps. Et parfois même, ils ne savent pas toujours expliquer ce que les films ont provoqué chez eux. Il y a quelques mois, on a regardé Flo, vous savez, le film d'animation silencieux qui a reçu l'Oscar de meilleur film d'animation, et mon fils m'a dit à la fin, il m'a fait mal au cœur ce film. J'ai pensé que c'était à cause des mouvements de caméra ou du mal de mer en suivant ce chat sur son bateau de fortune, entraîné par les flots, mais non. J'ai compris que ce mal au cœur, c'était un trop-plein d'émotions dont il ne savait pas quoi faire. Et il est toujours difficile de savoir ce qui va les brusquer, ce qui va les choquer au moment de leur vie, vous allez leur montrer ces choses. Ou même de le comprendre plus tard. D'ailleurs, tiens, petit sondage, quel film ou scène de film vous a traumatisé plus jeune, Ali,
alors,
par exemple ?
Ça va vous étonner, mais quand j'étais au CP ou en CE1, j'ai vu Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, et l'acteur qui joue Jésus, j'ai oublié son nom, me terrifiait. Enfin, il avait un visage, Guillemette, vous approuvez, qui était assez effrayant. C'était pas Jésus en soi, mais c'était l'acteur qui jouait Jésus. Voilà.
Bon, Ali est terrifié par Jésus.
Jésus dans le film de Franco Zeffirelli. Attention, parce que cette phrase-là...
Par les chrétiens, de manière générale, il est effrayé par les chrétiens.
Cette phrase-là, prise hors contexte, mon cher Julien Bisson, imaginez sur certaines chaînes ce que ça pourrait donner. Donc,
bon, revenons au cinéma.
Revenons à votre chronique.
Moi, par exemple, je suis resté traumatisé, là encore aujourd'hui, par une scène de L'Histoire sans fin.
Ah oui.
Quand Artax, le cheval du héros, meurt englouti dans les marais de la mélancolie. Pourquoi cette scène-là et pas une autre ? Mystère, sans doute, mystère dont il faudra peut-être parler un jour à mon psy.
Alors Julien, est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours veiller à ne pas choquer les enfants ?
C'est là où ça se complique. Est-ce qu'il faut protéger nos enfants de toute forme d'émotions fortes, que ce soit la peur, la colère ou la tristesse, ou au contraire les canaliser à travers les bonnes œuvres, ici les bons films ? Le grand auteur pour la jeunesse Tommy Ungerer, à qui on doit Jean de la Lune ou Les Trois Brigands, disait avec malice « Il faut traumatiser les enfants, il faut leur faire peur, sinon... ils vont tous devenir experts comptables. » Bon, pardon d'avance pour les experts comptables qui nous écoutent, on vous aime fort, mais sous couvert de provocation, Tommy Ungerer pose bien l'enjeu de la fiction, offrir une surface de projection pour des émotions qui existent, que nos enfants connaissent ou connaîtront, quoi qu'on fasse, pour qu'ils apprennent à s'y confronter et à les maîtriser. Si autant de films Disney ou Pixar commencent par la mort d'un parent, ce n'est pas pour traumatiser votre enfant, mais pour lui offrir la possibilité d'imaginer un monde où il serait capable de survivre à la perte et donc à l'obligation de grandir. Si les films sont peuplés de méchants, grands méchants, loups, sorcières ou vampires, c'est pour donner une histoire à la peur, pour qu'elle ne soit pas qu'un affect paralysant, mais une émotion qu'on peut comprendre et surmonter. C'est normal d'avoir peur est sûrement l'une des phrases que je répète le plus lors de nos soirées ciné du vendredi. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout et qu'on ne risque pas de traumatiser nos enfants sans le vouloir. J'ai une longue liste de films que j'attends encore un peu avant de lui montrer, des Gremlins à Jurassic Park, mais je lui ai déjà proposé Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke sans bien savoir comment il réagirait. Comme dirait Godard, le cinéma, c'est l'inconnu 24 fois par seconde. Mmh. Avec tout de même, par mesure de prudence, ce conseil qui vaut presque pour tous les films que vous leur montrez pour la première fois. Les regardez avec eux. Les regardez vraiment, hein, pas à moitié sur votre téléphone. Et en parler, si besoin, après la fin, surtout s'il y a des morts vivants à tête de poisson.
Réaction, Frédéric Sigrist ?
Ah, je suis complètement d'accord, mais j'aurais tendance à dire il faut y aller et on voit après. C'est vraiment, moi, il y a des films, je savais que c'était, il pouvait y avoir des scènes un peu traumatisantes pour mes enfants, mais on les a regardées, on en a parlé, et des fois, il y a des réalisateurs bien plus terrifiants pour les enfants que d'autres, par exemple Spielberg, Faux Amis. Parce que les gens se disent, oh, Spielberg, c'est E.T. et tout ça. Spielberg a un cinéma qui, sur beaucoup de scènes, qui peut traumatiser les enfants. Jurassic Park est terrible pour ça, parce que les dinosaures passent leur temps à attaquer les enfants.
Et à propos de Spielberg, j'ai toujours en tête le regard terrifié de ma sœur Sonia en train de regarder en salle E.T., qui n'a pas regardé, qui avait ses mains sur devant ses yeux, tellement elle était terrifiée par le personnage d'E.T. Guillemette Todisino.
Vous voyez, c'est marrant, vous venez de raconter une anecdote. En fait, ce qui est très beau, c'est qu'après, quand nos enfants grandissent, ils racontent ces traumatismes comme de magnifiques souvenirs de cinéma.
Ah, c'est un magnifique souvenir.
Oui, mais c'est vrai. Donc, c'est ça qui est... Ils disent, oh, tu te souviens quand j'ai été traumatisée par les pingouins dans le film de Tim Burton. Et il y a une lumière dans leurs yeux qui dit que, finalement, c'est devenu quasiment, en fait, presque un trophée. Voilà, ils ont combattu la peur, c'est devenu un trophée.
Stéphanie Dalfeur.
Oui, bah pour rebondir sur ce que dit Guillemette, j'ai une anecdote. On avait montré à notre fille qui avait 7-8 ans L'Argent de poche de Truffaut. Ah ouais. Et à un moment, ça se passe dans un immeuble HLM, on suit une vie de quartier, et il y a un petit garçon qui s'appelle Grégory qui tombe. Oui. Et il tombe du dernier étage et il roule sur lui-même dans le vide. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on montre ? Et il a
pleuré.
Et ma fille n'a pas pleuré. Par contre, il y avait un petit chat sur le balcon qui miaulait et qui était sur le point de tomber. Et ça l'a traumatisé. Et elle a pleuré pendant tout le film parce qu'elle avait peur que le chat tombe. Et du coup, on pense savoir et on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête.
Dans mon souvenir, parce que je n'ai pas vu ce film depuis des décennies, le petit garçon se relève.
Oui, le petit garçon tombe comme ça, tout simplement, il se relève du buisson.
Carole Desbarras, vous avez vu, hein, votre chronique provoque la discussion, hein, Julien Bisson.
Oui, tout à fait. Mais tous, vous avez dit que vous parlez avec les enfants après. C'est ce qui fait la différence entre montrer un film en famille et montrer un film en pédagogie en classe. C'est pour ça que les enseignants doivent absolument, impérativement, voir eux-mêmes les films avant de les montrer aux enfants. Vous pouvez prendre le risque, comme vous l'avez dit Julien, de montrer un film sans l'avoir revu parce que vous êtes à côté de l'enfant. L'enseignant ne peut pas se le permettre. parce qu'il y a 25 sensibilités différentes, histoires différentes, et du coup, il faut prévoir.
Tous les épisodes de Ma vie de parent de Julien Bisson sont à retrouver sur l'appli Radio France.
France Inter.
C'est moi à l'époque, avec certains films, pour mes gamins, je coupais des scènes, quoi, volontairement.
Grand bien vous fasse.
Sur la VHS, je faisais du montage. Ah ben oui, c'est... Tu sais, chez nous, Mufasa, il n'est pas mort et Titanic, il n'a pas coulé à la fin.
Ali Rebéi.
Et ce matin, une sélection de films à regarder en famille à l'occasion de ces vacances de Pâques avec Carole Desbarras, Stéphanie Dalfeur, Frédéric Sigrist et Guillemette Odissino. Alors, Frédéric Sigrist, avant cette émission, je n'avais jamais entendu parler de votre choix, Les Mitchell contre les machines de Mike Ryan, un film d'animation sorti en 2021. Un film hilarant et déjanté, ai-je lu en préparant cette émission.
Eh bien, c'est ça et même un peu plus. On a parlé de Little Miss Sunshine, ça pourrait presque être une suite officieuse de Little Miss Sunshine. C'est sur une famille, mais vraiment une famille lambda qui se retrouve dans un complot qui touche les États-Unis entiers et même la planète entière, organisé par un géant de la tech. Monsieur qui ressemble un petit peu à un Bezos, à un Mark Zuckerberg, à un Elon Musk, qui, via des téléphones portables, en fait, assis la domination des machines sur le reste de l'humanité. Et donc, ce géant de la tech, c'est vraiment... Mais on reconnaît immédiatement toutes les conférences où on présente le dernier iPhone. C'est lui le méchant. Et il y a cette famille d'Américains moyens avec un chien qui ressemble, qui a un petit charpé.
Et vous aimez bien les chiens,
ouais, mais, c'est... mais parce qu'il n'y a rien de plus bête dans la vie qu'un chien.
Je le dis. Vous pouvez appeler 01-24-7000.
Je sais qu'il y a plein de
vous envoyez le courrier directement.
Non, mais attendez. Puisqu'on parle des trucs, moi, toute la team chien, pendant des années, m'a dit « Oh non, mais ces animaux sont incroyables, ils sont... » J'en ai un depuis un an, vous m'avez menti.
Fallait être de la team chat.
Oui, mais j'étais team chat.
On peut enchaîner, merci.
Et donc bref, toujours est-il qu'il y a ce petit charpé qui est le seul moyen de déjouer la surveillance de ces machines, parce que quand elle le voit, elle n'arrive pas à faire la différence entre un charpé et du pain de mie. Et donc en fait,
voilà. Non mais là, on peut s'arrêter là. On a envie de regarder le film.
Bien sûr, c'est à mourir de rire. Voilà. Avec où les robots regardent le chien pas de mie. Et en fait, il y a un dysfonctionnement parce que ce chien ressemble à une tranche de pain de mie. Et c'est génialissime. Voilà.
Je pense que Julien Bisson va montrer ce film à son fils.
Prochain.
Les Mitchell contre les machines de Mike Ryan. Stéphanie Dalfeur, vous avez choisi un chef-d'œuvre.
Vous voyez ça? C'est tous les badges que j'ai gagnés dans ma vie d'explorateur. Si vous remarquez bien, il en manque un. C'est le badge d'assistance aux personnes âgées. Si j'obtiens celui-là, je passerai dans la tribu sacrée des explorateurs confirmés. Les Wapiti, la nature doit être explorée. Go, go! Ce sera fantastique.
As-tu entendu parler du tabou?
Le tabou?
Un oiseau, avec de gros yeux. Toutes les nuits, il s'introduit dans mon jardin et dévore mes pauvres azalées. Moi, je suis vieux et infirme. Je peux pas l'attraper. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider.
Moi, je peux le faire! Tabou! Tabou, tabou, petit tabou!
Amène-le-moi dès que tu l'auras trouvé!
Stéphanie Dalfeur, vous avez choisi un film que je n'ai pas revu depuis sa sortie en 2009, Là-haut de Pete Docter. C'est sans doute l'un des meilleurs films d'animation des studios Pixar.
Ah oui, vous avez dit, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Esthétiquement, c'est vraiment magnifique, notamment quand la maison s'envole avec ses centaines et milliers de ballons de toutes les couleurs. Il y a beaucoup d'humour. Russell, le petit garçon qu'on vient d'entendre, est extrêmement drôle. Et niveau chien, on est quand même. Super gâté avec un chien qui parle et qui voit des écureuils partout. Donc il coche toutes les cases. Et puis aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et puis pour ceux qui s'en souviennent, les 10 premières minutes du film qui sont la vie de Monsieur Fredrickson avec sa compagne qu'il rencontre quand il est très jeune jusqu'à la mort de sa femme. C'est d'une poésie, c'est une beauté. Voilà, c'est vrai que c'est la quintessence de ce que peut faire l'animation et de ce que on peut ressentir. Et c'est des films qu'on continue à voir et à revoir parce que ils sont vraiment super. Et puis, Monsieur Frédéric Sonne, c'est Charles Aznavour, la voix française. Je trouve qu'il est vraiment super. Et voilà, c'est un plaisir de le revoir et on s'en lasse vraiment pas. Et Écureuil est quand même devenu un gimmick entre nous, en tout cas, peut-être pas dans toutes les familles de France, mais voilà, quand on dit Écureuil, on pense toujours à ce chien complètement débile. Ah bah, et je fais partie de la team chat, moi aussi.
Guillemets, tout dit sinon.
Bah moi, dans ma famille, la blague récurrente, c'est « Kevin est une fille !»
C'est l'une des répliques du film.
L'une des répliques du film.
Julien Bisson.
Oui, on parlait des traumatismes d'enfants. Pour moi, là-haut est un traumatisme d'adulte. En effet, ces 10 premières minutes qui... Je pense que j'ai jamais revu le film en entier. En revanche, ces 10 premières minutes, je les ai revues plusieurs fois. Et quand j'ai montré le film à mon fils, je me suis dit, mais ces 10 premières minutes vont l'émouvoir comme moi. Moi, j'avais déjà les larmes aux yeux. Lui, pas du tout. Et c'est là où on voit aussi comment est-ce que le génie de ce film, c'est d'arriver à parler aux adultes de ces traumatismes de la perte qu'ils peuvent anticiper. Et pour les enfants, de laisser juste infuser cela sans les marquer autant.
En fait, c'est aussi un film. C'est vrai que ces 10 premières minutes sont incroyables. L'une des phrases récurrentes, c'est « L'aventure, c'est extra !» Mais ce qui est très beau, c'est qu'en fait, toute la suite du film, c'est une vraie aventure dans l'espace, etc. Mais ces 10 premières minutes, c'est toute l'aventure d'une vie.
Frédéric Segrist.
Oui, et surtout, cet envolé de cette maison avec ses ballons, il ne faut pas oublier que c'est parce que la ville se développe, devient de plus en plus industrialisée, et en fait,
Monsieur Frédérickson... Des méchants promoteurs immobiliers.
Et Monsieur Frédérickson, qui avait cette petite maison, se retrouve cerné par des grands, grands bâtiments, et en fait, il veut s'échapper à tout ça. Donc il y a aussi cette poésie inhérente, et il y a un court-métrage où on voit la suite de la vie de Monsieur Frédérickson, qui va rencontrer de nouvelles personnes après. Et il doit réapprendre, en fait, à rencontrer d'autres femmes après la mort de sa veuve. Et c'est très, très beau aussi.
Carole Desbarins.
Moi, j'ai envie de dire qu'en famille, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi les ados. Oui. Et que je trouve que c'est important de voir des films avec des ados, sur l'écran et sur le canapé. Je vous conseillerais vraiment le film de Guillaume Braque, qui est un documentaire qui est sur les écrans actuellement.
Ce n'est qu'un au revoir.
Voilà, ce n'est qu'un au revoir, qui montre des ados de Dromois, des lycéens qui vont quitter le lycée, avec ces espèces de nostalgie incroyable qui nous renvoie à nous-mêmes, de la coupure, de la rentrée dans le monde des adultes, et avec énormément de tendresse. Et je pense que ça peut être l'occasion pour les jeunes de se retrouver sur l'écran, et pour les adultes de mieux comprendre les ados.
Donc ça s'appelle « Ce n'est qu'un au revoir » de Guillaume Braque, et c'est en salle depuis le 2 avril, oui. C'est ça. Pour ma part, je vous recommande le documentaire en 3 parties diffusé hier soir sur France 2, « Crime contre l'humanité, le procès de Klaus Barbie », réalisé par Gabriel Le Baumin et produit par Dana Astier. C'est un extraordinaire document à regarder avec ses enfants âgés de plus de 10 ans. Et c'est un éclairage puissant, une relecture captivante du procès Barbie, selon Télérama, avec les témoignages puissant notamment de Simone Lagrange et Lise Lesèvre, Crime contre l'humanité, le procès Barbie à voir sur la plateforme France TV. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Guillemette, c'est incroyable.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Franchement, c'est un chef-d'œuvre du documentaire. Et je pense que c'est extrêmement important de revoir ce genre d'histoire aujourd'hui.
Un chef-d'œuvre, Crime contre l'humanité, le procès Barbie. Et à suivre, il y aura les procès Papon et Touvier la semaine prochaine. Mais c'est déjà disponible sur la plateforme France de France Télévisions. Merci à toutes et à tous. Merci Carole Desbarins. Merci Guillemette Todisino. On vous retrouve évidemment vendredi, on peut vous lire dans Télérama. Merci Stéphanie Dalfeur de l'association L'Archipel des Lucioles. Et merci Frédéric Segrist. On peut écouter les blockbusters à la chaîne sur l'appui Radio France. Hein.
Bientôt une nouvelle série sur la Corée du Sud.
On attend ça, pas sur la Corée du Nord.
Non, Corée du Nord, ils n'ont pas voulu.
D'accord. Et merci Julien Bisson. À la une, tiens, du nouveau Légende, magnifique.
Elle a une nouvelle légende, Simone de Beauvoir.
En couleur, pour une fois.
En couleur, avec une grande couverture couleur, et avec les regards d'Annie Ernaux, de Michel Perrault, de Judith Butler, et bien d'autres.
Ce numéro de Légende est absolument magnifique.
Grand bien vous fasse. Podcast France Inter.